Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition, les 17h30, temps universel du mercredi 18 décembre 2019. John Linden pour vous présenter cette édition. Tout d'abord, les titres. Le Congrès américain est en ébullition. Vote historique pour la mise en accusation du président Donald Trump.
Question is on the motion to adjourn. All in favor say aye.
Aye.
Opposed say no.
No.
The noes have it.
Au Tchad, une attaque menée par des membres présumés du groupe Boko Haram a fait au moins 14 morts. Un sommet sur la réforme institutionnelle de la CEAC s'est ouvert ce mercredi à Libreville au Gabon. Et puis, je n'ai raté pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates est réunie depuis ce matin pour un débat qui mènera au vote des deux articles de mise en accusation du président Donald Trump. Il est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès. Abdourahman Dia.
Dès l'ouverture de la session, les républicains ont engagé une bataille de procédure.
Tous ceux qui sont en faveur de la motion pour l'adjournement, dites oui. Tous ceux qui sont opposés, dites non. Le non l'emporte. La motion est rejetée.
Le débat a donc commencé. Les démocrates parlent d'un jour historique pour le respect de l'égalité de tous devant la loi et pour l'affirmation du pouvoir de contrôle du Congrès. Mais pour le président Donald Trump et les républicains, c'est un processus illégitime dont le seul but est de délégitimer le vote de 63 millions d'Américains lors de la présidentielle de 2016. Pouvez-vous croire que je serai mis en accusation aujourd'hui par la gauche radicale alors que je n'ai rien fait de mal, a écrit Donald Trump sur Twitter. Dans une lettre adressée hier à la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, Donald Trump accuse les démocrates d'avoir déclaré une guerre ouverte contre la démocratie américaine. Après le vote d'aujourd'hui, il reviendra ensuite au Sénat d'organiser le procès du président Trump, probablement en janvier. Et les républicains qui contrôlent le Sénat ont déjà prévenu que le président sera exonéré.
Et pour un décryptage de cette actualité, nous avons au téléphone René Lec, analyste politique basé ici même à Washington. René Lec, bonsoir.
Bonsoir, John.
Vous observez la scène politique américaine depuis des années. Vous êtes vous-même démocrate. Votre parti a décidé d'aller jusqu'au bout avec cette procédure de mise en accusation du président Donald Trump. Qu'est-ce qui va se passer après cette étape au niveau de la Chambre?
Écoutez, bon, d'abord, comme vous l'avez souligné, comme votre collègue l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment un jour historique. Hein. En deux siècles, ce n'est que la troisième fois que l'on aura une journée comme celle d'aujourd'hui qui va aboutir avec le vote pour l'impeachment, donc la mise en accusation, avec demande de destitution d'un président américain. Donc, de ce point de vue-là, c'est un jour tout à fait extraordinaire hein, que nous vivons en ce moment, que l'on soit démocrate, républicain ou indépendant. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que le vote va se faire, en fin de journée, peut-être dans la soirée, voire peut-être même demain, si les tactiques d'obstruction des républicains s'avèrent efficaces, ce qui va se passer, c'est que les termes, si vous voulez, de l'impeachment vont être présentés au Sénat et au Sénat, il y aura maintenant un procès et c'est là où on discutera la destitution ou non de Donald Trump.
Alors justement, pourquoi poursuivre quelqu'un qui pourrait être exonéré par le Sénat, on l'a dit, contrôlé par les républicains?
Oui, écoutez, c'est la même question que l'on pourrait poser à toute personne qui engage une procédure judiciaire. Pourquoi faire un procès si vous n'êtes pas sûr de le gagner? Pourquoi faire un procès si vous savez qu'en première instance, vous pouvez le gagner, mais en appel, vous pouvez le perdre? Bon, c'est un peu cette même logique-là. Je crois que la question est plus une question de principe pour les démocrates. Ils considèrent qu'il y a eu une obstruction de la justice, hein, une entrave à la justice, qu'il y a eu un abus de pouvoir du président de la République et que d'un point de vue constitutionnel, que c'est leur devoir que d'engager cette procédure de mise en accusation immédiatement. Donc je pense que ce n'est pas seulement, bien que ce soit une procédure politique quelque part, ce n'est pas simplement que des considérations politiques, c'est aussi une sorte de prospective faite par rapport à ce que pourrait être l'avenir de l'Amérique.
René Lec, merci, désolé de vous couper. On suivra encore cette actualité avec vous dans nos prochaines éditions, sans doute. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes basé ici même à Washington. Le vote à la Chambre des représentants devrait donc intervenir dans quelques heures au moment même où le président Trump montera à la tribune à Battle Creek dans le Michigan pour un meeting de campagne en vue de la présidentielle de novembre 2020. La bataille se poursuit également chez ses rivaux démocrates. Les candidats à l'investiture de ce parti vont s'affronter demain lors d'un nouveau débat télévisé dans le cadre des primaires démocrates. Fin aujourd'hui à Genève du premier forum mondial sur les réfugiés, le rassemblement qui se tient un an après l'adoption à New York d'un pacte sur les réfugiés aux Nations Unies, doit donner un nouvel élan à la gestion des déplacés, mais a surtout permis, dès son ouverture hier, de mettre en évidence les fortes dissensions sur le sujet. Les dirigeants du Costa Rica, de l'Éthiopie et du Pakistan, qui co-organisent la rencontre avec la Turquie et l'Allemagne, ont souligné l'importance d'un soutien financier envers les pays pauvres ou émergents qui accueillent 80% des réfugiés dans le monde. Nous reviendrons sur cette actualité en page magazine de ce journal. En Irak, les partis négocient pour trouver un nouveau chef de gouvernement. À la veille de la date butoir, les partis irakiens se disputent autour de 3 candidats alors que la rue veut renverser l'ensemble du système. Le président Bahram Saleh a jusqu'à jeudi minuit pour désigner un remplaçant à Adel Abdel Mahdi, démissionnaire après 2 mois d'une révolte inédite qui se poursuit malgré la sanglante répression avec des assassinats, enlèvements et autres actes d'intimidation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans un village de pêcheurs par des djihadistes qui multiplient les attaques meurtrières dans les pays riverains du lac Tchad. Nathalie Barge.
Hier, des personnes sont venues attaquer des pêcheurs non loin du village de Kaïga. Il y a eu 14 morts, 5 blessés et 13 personnes sont portées disparues. Selon Imouya Souabebe, le préfet du département de Kaïa. Nous savons que ce sont toujours les éléments de Boko Haram qui écument cette zone, a-t-il dit, précisant que les assaillants sont venus en plusieurs groupes qui ont attaqué les pêcheurs dans une zone difficile d'accès. Ce sont des éléments de Boko Haram qui sont présents dans cette zone, a affirmé le porte-parole de l'armée, Azem Bermondois. 4 militaires ont été tués récemment sur les rives du lac Tchad et ces derniers mois, plusieurs civils ont été tués ou enlevés dans cette zone.
Et puis, un sommet sur la réforme institutionnelle de la CEAC s'est ouvert ce mercredi à Libreville au Gabon, présidé par Ali Bongo. Les précisions d'Éric Manirakiza.
Le président Ali Bongo a prononcé un discours d'environ 4 minutes. Je voudrais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Libreville à l'occasion de ce sommet extraordinaire consacré à la réforme institutionnelle de notre communauté, a déclaré M. Bongo devant un parterre de 4 chefs d'État sur les 11 pays qui composent la CEAC. S'exprimant sans difficulté notoire, mais marquant plusieurs secondes de pause entre chaque phrase, il a souligné que cette réforme institutionnelle doit permettre à la CEAC de s'adapter aux défis et de renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. Son premier discours depuis son accident vasculaire cérébral survenu le 24 octobre 2018 à Riyad, qui l'a considérablement affaibli et laissé absent de longs mois. Ces 4 semaines, M. Bongo a multiplié les apparitions publiques, manifestement en meilleure forme. Une partie de l'opposition estime que M. Bongo, au pouvoir depuis 2010, n'est plus en capacité de diriger le pays.
En Côte d'Ivoire, le procès de Charles Blé Goudé, qui devait s'ouvrir ce mercredi, a été reporté sine die. Un avocat de la défense a déposé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi devant les juges de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens et ancien ministre de la Jeunesse. Charles Blé Goudé, le général des rues, comme on le surnommait en Côte d'Ivoire, est poursuivi par la justice ivoirienne pour actes de torture, homicide volontaire et viol. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'opposition politique ivoirienne annonce ce mercredi qu'elle maintient son meeting prévu samedi lors de la visite en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron. Ce meeting se tiendra non plus à Yopougon, mais au stade Séni Fofana de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan. C'est ce qu'a fait savoir Maurice Kakou, numéro 2 du PDCI, ancien parti au pouvoir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec Irénée Herman Ungbo.
Après la Banque mondiale, l'Union européenne approuve un appui budgétaire de 59 millions d'euros pour le Mali. L'opération intervient alors que le Premier ministre avait appelé l'ensemble des partenaires financiers à emboîter le pas à l'institution de Bretton Woods afin de permettre à son pays de mieux faire face aux dépenses sécuritaires qui sont montées en flèche dans le pays. Le Congo bénéficiera d'un financement de 208 millions de dollars de la BAD pour relancer son activité économique. C'est ce qu'indique l'institution panafricaine dans un communiqué. L'objectif est de créer les conditions d'une croissance économique soutenue à travers le renforcement de la consolidation budgétaire et la relance de l'économie du Congo. Dans la ville d'Atbara, berceau de la révolution soudanaise, la crise du pain en décembre 2018 appartient désormais au passé, disent les habitants. La précieuse denrée étant désormais distribuée sous la surveillance de comités citoyens, indique l'agence France Presse. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé ce jour, rapporte l'agence Ecofin, un financement de 204 millions de dollars en faveur du programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale au Maroc.
Et Yacouba Ouédraogo nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le Classico Barça-Real qui se joue ce soir.
Oui, ciblé par des manifestations indépendantistes, le classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Catalogne s'annonce lourd de tensions, mais aussi d'enjeux sportifs. L'éventuel vainqueur au Camp Nou sera le nouveau leader du championnat d'Espagne, accroché ce week-end à Saint-Sébastien pour les Catalans 2-2 et à Valence pour les Madrilènes 1-1. Les deux rivaux abordent le classico dans des dynamiques fragiles. Les deux clubs détiennent les deux co-meilleurs buteurs du championnat, Lionel Messi côté Barça et Karim Benzema côté Real, 12 buts chacun. Toutefois, chacune des deux équipes a perdu un élément offensif important avec les absences sur blessure du Madrilène Eden Hazard et du Catalan Ousmane Dembélé. Selon la Liga, 650 millions de téléspectateurs suivront ce match.
Hakim Ziyech, élu sportif de l'année par la ville d'Amsterdam.
C'était lors d'une soirée organisée par la ville d'Amsterdam. L'international marocain a marqué l'histoire du football néerlandais grâce à une superbe saison avec l'Ajax. Il a marqué 21 buts en championnat et Ligue des champions avec 13 passes décisives. Hakim Ziyech n'était pas présent pour recevoir son prix, mais a pu compter sur son entraîneur Erik ten Hag pour louer ses qualités. « Je compare toujours Ziyech à un artiste. Comment il frappe le ballon, comment il trouve ses partenaires devant le but, c'est beau à voir. Il mérite ce prix », a déclaré ten Hag.
Yacouba, Charlotte sera la 30e franchise de la MLS.
Oui, la ville de Charlotte deviendra dès 2021 la 30e franchise du championnat nord-américain de football. L'équipe jouera au Bank of America Stadium, 75 000 places, en pleine expansion depuis sa création en 1996 avec 10 franchises originelles. La MLS s'est disputée à 24 formations cette année, un championnat remporté par les Seattle Sounders, l'Inter Miami CF copropriété de David Beckham et le Nashville SC. La feront passer à 26 dès le 29 février, date du coup d'envoi de la saison 2020.
Et puis Arsène Wenger qui défend la liberté d'expression de Özil.
Mesut Özil bénéficie de la liberté d'expression comme n'importe quelle autre personne. Il utilise sa notoriété pour exprimer ses opinions qui ne sont pas nécessairement partagées par tout le monde, mais il en a le droit, a déclaré l'ancien entraîneur d'Arsenal et désormais directeur du développement du football mondial de la FIFA. Dans un tweet posté la semaine dernière, Mesut Özil a dénoncé le silence des pays musulmans sur la situation actuelle au Xinjiang, une région au nord-ouest de la Chine où Pékin est soupçonné d'avoir interné 1 million de musulmans. La télévision d'État chinoise a choisi de déprogrammer de son antenne la rencontre opposant Arsenal à Manchester City dimanche en Premier League. Mesut Özil a aussi reçu le soutien de Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour, et on commence par le Niger. Dans son discours télévisé à la Nation hier soir à l'occasion du 61e anniversaire de la République du Niger, Mahamadou Issoufou a fait état d'une place de Niamey dédiée au commandant du camp militaire d'Inades, tué dans une attaque avec 70 de ses soldats. Pour le président, cette attaque revendiquée par le groupe État islamique et celles qui l'ont précédée rappellent que le pays est en guerre contre un ennemi perfide. Les réactions à ces discours avec notre correspondant en Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le message à la nation du chef de l'État était attendu par l'opinion vu le contexte dans lequel ce 61e anniversaire de la proclamation de la République est fêté. Un contexte sécuritaire dégradé et fort opportunement rappelé par le président Issoufou.
Nous sommes en guerre. Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste, la défense de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour cela que nous la gagnerons. Plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra.
Pour Garé Amadou, journaliste, le message du chef de l'État était empreint de responsabilité.
Pour moi, ce message à la nation du président de la République est un message de tous les défis. Un défi d'abord sur le plan sécuritaire à travers l'union des cœurs et des esprits, derrière notre armée pour lutter contre le terrorisme. Le président a appelé le peuple nigérien à ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, du divisionnisme, parce que c'est ce que cherchent les terroristes. Le deuxième défi est le défi du dialogue politique. Et à ce sujet, le président de la République n'est pas passé par quatre chemins pour apporter un soutien plein et entier au premier ministre qui doit conduire le dialogue politique, et aussi à la CENI qui poursuit un travail vraiment remarquable afin de doter le Niger d'un fichier électoral indispensable pour la tenue des prochaines élections. Une réponse claire à la demande de l'opposition qui veut l'implication directe du président de la République. Le président de la République, à travers son soutien au premier ministre, a voulu faire comprendre à l'opposition que c'est lui qui a mandaté le premier ministre et qu'il dispose de sa pleine et entière confiance pour conduire ce dialogue-là.
El Hadj Idi Abdou est lui activiste. Il estime que le président Issoufou devait saisir l'occasion de ce message pour faire de fortes annonces.
Comme il avait souligné dans son discours, l'heure est grave. Si l'heure est grave, on prend des décisions à la hauteur de la gravité de la situation. Il a parlé évidemment de la tuerie des militaires, de l'enlèvement des personnes, il y a même des incendies de l'école et ça continue.
Cette barbarie-là, ça ne doit pas rester au niveau du discours, ça doit vraiment faire naître des actes concrets pour qu'on sente. On ne peut pas continuer. Et avec la délation et la mort, et toujours la chaîne du commandement est intacte. C'est la même chose, les gens continuent. Moi, je m'attendais à ça, effectivement, à un remaniement au niveau de la chaîne de commandement. Et beaucoup d'autres, je suis sûr, s'attendaient à ça.
Ce mercredi, le président Issoufou a assisté dans le chef-lieu de la région de Tillabéri, victime des attaques des groupes djihadistes venus du Mali, avec ses homologues burkinabés et ghanéens, à un grand défilé militaire et civil pour commémorer la fête. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le G5 Sahel, réuni en sommet extraordinaire à Niamey, appelle la communauté internationale à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Un appel lancé après la mort de 71 soldats nigériens à Inates, l'attaque la plus meurtrière visant l'armée nigérienne depuis 2015. Quelle stratégie face aux groupes armés dans le Sahel? Quel rôle pour la communauté internationale dans cette lutte contre le terrorisme? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Préoccupations sécuritaires au Sahel, autre préoccupation au Sénégal où l'insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel est un problème majeur. L'État et les entreprises ne recrutent pas autant qu'ils devraient. Trouver un stage rémunéré est rémunéré, autant pour moi, est même devenu un parcours du combattant pour des jeunes qui ont pourtant les diplômes requis. Voyons cela avec ce reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Licence, master, doctorat, les étudiants sénégalais passent tous les échelles du système LMD sans pour autant avoir la garantie de trouver un emploi à leur sortie des universités et instituts de formation professionnelle. Certains sont d'ailleurs obligés de se tourner vers des métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation initiale. Alimatou Sadia Ndiaye est titulaire d'une licence, mais elle a eu toutes les peines du monde avant de trouver un stage.
Bon, je fais un travail qui ne demande même pas le diplôme de fin d'études moyennes. Juste pour dire combien il est difficile de trouver du travail. Malgré une prime de transport de 25 000 par mois, je n'arrive même pas à combler le prix mensuel de mon transport. Et ceci, malgré une formation qui a coûté très cher à mes parents. Sur ce, je pense que l'État du Sénégal a quasiment raté sa politique de l'emploi. Parce qu'au terme de notre formation, rare de nos promotions ont réussi à avoir un stage. Un contrat de travail, n'en parlons même.
Un avis que ne partage pas totalement Yacine, cette titulaire d'un Master 2 en marketing, estime que l'État fait de son mieux et que les jeunes devraient trouver des alternatives pour assurer leur avenir professionnel.
Je dirais que l'État nous a même offert des opportunités, à savoir les concours d'État et autres. C'est moi qui ai pris un peu de recul pour voir si j'arriverai à m'intégrer dans la fonction publique déjà. Sinon, je vais faire recours à ma formation professionnelle. J'ai même des projets d'entrepreneur, c'est-à-dire être dans le freelancer, lancer mes propres projets, comme je suis déjà marketeur. Je ne pense pas que l'État puisse donner le plein emploi en l'espace de 5 ou 10 ans. Ce n'est pas possible. Il y a trop de jeunes diplômés ici au Sénégal. Il ne faut pas tout attendre de l'État.
L'État ne peut certes pas tout faire, mais il doit s'associer au patronat pour trouver des solutions afin d'asseoir une bonne politique concernant l'emploi des jeunes. Selon des experts, pour assurer l'employabilité des jeunes, il faudrait que les formations académiques soient adaptées aux offres d'emploi. Mais il faudrait surtout que l'État et le patronat revoient ensemble et en profondeur leur politique d'embauche afin de garantir aux jeunes diplômés des emplois en phase avec leurs compétences. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
De l'électricité dans les camps des déplacés d'ici 2030, c'est le défi humanitaire qu'a lancé l'ONU lors du premier forum mondial sur les réfugiés. Même si l'institution est consciente que cette bataille pour l'énergie comporte aussi des risques de conflit. Et Kiabadou a joint Lisa Bryan, notre envoyée spéciale à Genève.
On va voir les résultats, dans le long terme, pas tout de suite, pas forcément. Il y a des résultats dans le court terme. C'est la première forum de réfugiés mondial qui inclut, je dois dire, aussi des réfugiés eux-mêmes. Et c'est le HCR qui est le hôte et aussi le gouvernement de la Suisse. Et en fait, l'idée, c'est de trouver des solutions qui sont plus cohérentes. Ce sont des solutions qui sont plus inclusives. Pas simplement vis-à-vis le traitement des réfugiés dans les camps, etc., mais aussi dans le façon que les pays accueillent ces réfugiés. Et bien sûr, on a vu pas mal de situations où des pays en Europe et ailleurs disent on a trop de réfugiés, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi du financement. Et on va voir, c'est des 250 millions déjà promis par des différentes entreprises et fondations, des entreprises comme IKEA par exemple. Mais je sais que le HCR regarde pas simplement l'argent, mais aussi des idées comme la formation des réfugiés, des différentes sortes de professions. Donc il y a beaucoup plus, ils vont avoir aussi une demande. L'expertise des entreprises dans des choses comme les panneaux solaires, etc., parce qu'il veut avoir l'énergie propre dans les camps de réfugiés. Donc, il y a des choses qui sont petites et aussi des choses qui sont grandes. Et vis-à-vis des promesses des grands pays, on va voir dans les heures et aussi les mois et les années qui vont suivre.
Alors, vous avez parlé de solutions financières, mais pas que. Sur la façon d'accueillir différemment, qu'est-ce qui a été proposé?
L'idée qui est proposée pour le moment, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus global et quelque chose qui est inclusif. Pas simplement l'inclusion des réfugiés eux-mêmes, mais d'avoir plus un partenariat entre, disons, le secteur privé, la communauté humanitaire et aussi les pays eux-mêmes, les pays donateurs, mais aussi les pays de l'accueil, des pays comme l'Éthiopie ou de l'Uganda qui accueille plusieurs millions de réfugiés. Et donc, plus une sorte de stratégie compréhensive et beaucoup plus chaleureux, disons, beaucoup plus accueillant vis-à-vis des réfugiés. Et en parlant avec les réfugiés eux-mêmes, ils disent on doit être partie de cette stratégie parce que ça s'agit de notre vie et on est les experts sur notre vie.
Lisa Bryan, notre envoyée spéciale à Genève.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La réalisatrice burkinabé Apolline Traoré accumule les récompenses depuis le FESPACO en février à Ouagadougou pour le long métrage d'Errance. Elle a décroché divers prix dans plusieurs pays, dont trois au Festival international du Kerala en Inde le 13 décembre. L'une de ces distinctions a été attribuée à Jemima Naomi Nembling, meilleure actrice enfant pour le rôle de Ayla, héroïne du film retraçant l'histoire d'une petite fille qui sauve son père pendant la violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Nathalie Barge l'a jointe à Ouagadougou.
C'est vraiment un coup de cœur et une grande fierté pour moi parce que c'est vraiment son premier rôle au cinéma. Elle n'a jamais joué avant. Et là, elle se retrouve avec trois prix. Le premier était en Belgique, au Festival de Bruxelles, où elle a eu la mention spéciale du jury. Et au Nigeria, où elle a eu le prix encore de la jeune actrice francophone anglophone. Et après, à Ouaga pour les Sotibis. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi, parce qu'elle a vraiment incarné son rôle avec grandeur. Et la formation que j'ai pu lui donner pour pouvoir incarner ce rôle-là, je suis très fière avec les résultats que nous obtenons aujourd'hui.
Parlons du film d'Errance, hein, qui se situe donc à la période de violence électorale en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un père, de parents avec une petite fille. Et c'est une sorte de plaidoyer pour les femmes, pour les filles, n'est-ce pas? Car il y a dans cette histoire la lutte justement de cet enfant, Ayla.
Exactement, exactement. Je voulais vraiment parler de ce phénomène où, comme on dit, nos bons pères africains souhaitent toujours avoir un garçon qui vont perpétuer leur legacy et la femme est mise au second plan. Mais aujourd'hui, on constate avec l'émancipation de la femme comment beaucoup de femmes aujourd'hui s'occupent de leur famille, de leur père et de leur mère quand ils sont vieux, mais elle n'est toujours pas légitime, elle n'est toujours pas l'héritière. Et cette période aussi est très importante pour moi parce que nous savons tous que la guerre en Côte d'Ivoire, bien que nous sommes ici au Burkina, on l'a vraiment senti parce qu'à l'époque, dans la capitale, il y avait près de 3 millions de Burkinais dans la ville, qui étaient plus ou moins chassés ou qui décidaient de rentrer. Et on l'a vraiment senti ici parce qu'il y avait beaucoup de ces gens-là qui n'avaient pas forcément de place. Et en sachant que les élections un peu partout arrivent très bientôt, en 2020, j'espère en tout cas que ce film aurait rappelé l'horreur qui s'est passée et que ça n'arrivera plus.
Revenons sur Nollywood, parce qu'en fait, donc, il y a eu plusieurs trophées. Vous avez eu donc celui de la meilleure réalisatrice francophone-anglophone pour le long métrage, mais le Burkina Faso a récolté aussi 8 trophées à ce festival, notamment Kadi Traoré pour les séries télévisées, Un femme au foyer, qui a eu le même trophée que vous, et Mounane Diaye qui a remporté, elle, le trophée de meilleure actrice.
C'est ça.
Quel est votre sentiment sur tous ces trophées récoltés là-bas à Nollywood?
C'est une fierté parce que ce festival, pour la première fois, a ouvert ses portes au cinéma francophone. Pour Errance, j'avais la chance au moins d'avoir traduit ou sous-titré mon film en anglais. Donc je pouvais compétir dans la compétition globale, c'est-à-dire de complètement de l'Afrique, de langue portugaise, anglophone et francophone et tout. Mais au niveau de la sélection francophone, il y a eu quand même assez de trophées et c'est extrêmement important que Nollywood justement commence à s'ouvrir parce que nous sommes bombardés par des films de Nollywood, mais très peu là-bas connaissent notre cinéma.
C'est la fin de cette édition mise à nom de par Michel Joseph, Audrey Osirigues était à la console. John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.
VOA
Afrique, les infos.